Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série des clés pour vivre que je vous invite à suivre toute cette semaine. Cette série est consacrée à une grande figure de l'Ancien Testament. C'est celle du prophète Élie, connu pour son zèle brûlant pour Dieu, connu pour ses nombreux miracles, comme le défi sur le mont Carmel et où il prouve la grandeur du Dieu d'Israël. Sa rencontre avec Dieu sur ce mont Horeb où il sera enlevé au ciel dans un char de feu. Le prophète Élie est à l'honneur pour approfondir et puis approcher ce grand prophète. Je reçois au micro frère Baptiste de l'Assomption qui est Carme. Bonjour frère Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes Carme, vous êtes docteur en théologie, auteur d'un dernier petit ouvrage qui est paru aux éditions du Carmel. Je dis bien petit ouvrage, bien pensé pour nos auditeurs qui voudraient peut-être entrer dans cette lecture. Il s'intitule « Faire horizon avec les anges ». Alors c'est pas le cœur de la série des clés pour vivre, mais dans ce petit livre qui est votre actualité, frère Baptiste, le tout premier chapitre, alors est-ce providentiel pour nous, est consacré au prophète Élie. Alors pourquoi ce petit ouvrage et pourquoi ce premier chapitre qui honore cette grande figure ?
Alors je commence par la deuxième question, c'est-à-dire que commencer avec Élie, c'est justement commencer avec celui en qui, on pourrait dire, la tradition du Carmel se reconnaît. Et donc cette tradition, c'est une tradition qui nous pousse à l'intériorité, à l'oraison. Et elle est comme... elle trouve son origine dans l'expérience du prophète Élie. Et donc commencer avec lui, c'est commencer aux origines. Et je pense que justement dans sa vie, telle qu'elle est racontée dans l'Ancien Testament, on a un condensé de ce que les saints du Carmel expliciteront par la suite. Et donc, on a toute une pédagogie spirituelle. Et finalement, l'enseignement des docteurs du Carmel, eh bien, ce sera une sorte de grand déploiement, une explicitation de ce qu'Élie a déjà vécu en condensé, en tout petit.
Quelle est l'importance de ce prophète, ce grand prophète dans l'Ancien Testament ?
Alors, il est dans l'Ancien Testament, il est la figure du prophète par excellence. Hein. Ce n'est pas le seul prophète, évidemment, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que quand Jésus, sur la montagne de la Transfiguration, s'entretient avec des personnages, c'est avec Moïse et Élie. Moïse comme portant la Torah, la loi, et puis Élie comme étant cette figure prophétique par excellence. Et donc, il a quelque chose un peu de l'archétype du prophète. Et d'ailleurs, si on est attentif à la place où il est mis dans l'Ancien Testament, selon la répartition de la Bible hébraïque, il est au cœur de ce qu'on appelle les Neviim, c'est-à-dire l'ensemble des livres qui sont consacrés aux prophètes. Il commence avec Josué, il se termine avec Malachi, et au centre, vous avez Élie. Donc on pourrait dire qu'aussi bien par sa vie que même par son positionnement dans les Écritures, il a quelque chose de central et puis qui traverse les générations, puisqu'il est aussi ce prophète qui fait se lever des successeurs, Élisée, mais aussi les fils des prophètes.
On y reviendra. Alors, quelle a été la mission d'Élie, justement, en tant que prophète et grand prophète ?
On pourrait dire que la mission apparente, c'est justement de ramener Israël à Dieu. Et peut-être sa mission plus cachée, c'est de faire surgir une génération qui le suivra. Et donc, il y a dès le début une sorte de dilemme. Quelle est la meilleure manière pour faire retourner Israël à Dieu ? Est-ce que ce sera justement par un grand sacrifice sur le Carmel ? Oui, mais Dieu aura, on pourrait dire, un plan plus efficace encore que ce qu'Élie pourra mettre en œuvre. Ce sera justement un plan par lequel il va faire passer son prophète par l'épreuve du désert et le conduire jusqu'à l'Horeb où il lui révélera ses secrets. Et c'est justement quand Élie sera parfaitement accordé à Dieu qu'alors il pourra donner la pleine mesure de sa mission. Et on verra, ce sera une mission qui dépasse les générations. Non plus une mission temporaire qui serait liée seulement à la situation d'Israël à son époque, mais une mission qui traverse les générations et qui se poursuit de siècle en siècle.
Le prophète Élie, un prophète aussi pour l'aujourd'hui. C'est fin des temps peut-être, on en parle un petit peu, parfois beaucoup, avec la prophétie aussi de Malachi.
Alors oui, c'est vrai que l'Ancien Testament se termine avec l'annonce du retour d'Élie. Ce retour se fait en Jean-Baptiste, mais on voit bien que l'identification d'Élie et de Jean-Baptiste n'est faite que par saint Matthieu. Et les autres évangélistes sont plus, ont des opinions différentes. Pour saint Jean, ce sera Jésus qui est par excellence le nouvel Élie. Et on voit bien que saint Luc, par exemple, nous montre qu'Élie, effectivement, est endossé par le ministère de Jésus, mais aussi par l'Église, puisque dans les Actes des Apôtres, on verra que Pierre, Paul et d'autres encore reproduisent les gestes d'Élie. Et donc, c'est comme si la mission d'Élie continue à travers la vie de l'Église, et l'Apocalypse nous parle de ces deux témoins qui ont une mission toute particulière à la fin des temps, et l'Église a souvent reconnu dans ces deux témoins, au moins pour l'un d'entre eux, la présence d'Élie. Donc Élie en personne, Élie par son esprit, Élie, on ne sait trop comment, en tout cas, dans la conscience de l'Église, a un rôle à jouer jusqu'au retour du Christ, jusqu'à sa deuxième venue dans la gloire.
Alors on y reviendra peut-être. Qu'est-ce qui le différencie au fond, ce prophète hein, et ce grand prophète Élie, de tous les autres prophètes?
Alors, on pourrait dire, il y a cet aspect dont on vient de parler et qui est massif dans l'histoire de l'Église. Et puis, il y a un autre aspect, me semble-t-il, qui est plus caché et qui, justement, le rend très familier ou même très accessible. C'est justement que, plus qu'aucun autre prophète, à mon avis, Élie est celui qui montre comment Dieu éduque à la vie prophétique. C'est-à-dire que, on le verra peut-être plus en détail, mais il y a certains aspects par lesquels on voit qu'Élie n'est pas toujours parfaitement accordé à la parole de Dieu. Et donc, il nous offre aussi le modèle de ce que Dieu peut faire en nous si on veut marcher sur ses traces et nous laisser éduquer par Dieu à devenir à sa suite des prophètes. Et en ce sens, je trouve qu'il a quelque chose de très particulier. On voit bien que d'autres prophètes sont parfois éduqués aussi par Dieu, mais je crois qu'Élie l'est à un titre tout spécial.
À quoi reconnaît-on un vrai prophète, puisqu'on parle d'un grand prophète de l'Ancien Testament?
Oui, c'est la question qu'on se pose, et tout particulièrement d'ailleurs qu'on se pose pour Élie, parce que justement, il prend la parole quand il arrive au chapitre 17 du premier livre des Rois, en prononçant une condamnation. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. Si on traduisait même littéralement, ce serait sauf à la bouche de ma parole, ce qui est un peu étrange comme formulation. Donc, il y a beaucoup d'étrangeté dans cette première prise de parole parce que on ne sait pas trop quel est le statut de cette première parole d'Élie. Alors, effectivement, elle va se réaliser, mais le Deutéronome nous mettait en garde tout de même contre certaines paroles qui se réalisent, mais qui ne verraient pas dans la vie du prophète une parfaite adéquation à la loi de Moïse. Alors Élie, on pourrait dire, semble parfaitement adéquate à ce que Dieu demande. Et pourtant, il y a toujours cette question, quand on lit sa vie, qui reste en arrière-fond, c'est est-ce que Élie fait bien et parfaitement ce que Dieu lui a demandé? Et au début, en fait, on ne sait pas vraiment. Et d'ailleurs, il y a des traditions juives qui disent que, en réalité, c'est pas tant Élie qui a obéi à Dieu en faisant venir la sécheresse sur Israël, mais c'est plutôt Dieu qui, voyant qu'Élie a pris l'initiative de faire venir cette sécheresse, eh bien, va essayer d'éduquer son prophète à tout de même avoir un regard de miséricorde sur son peuple. Et donc, c'est plus au début Dieu qui obéit à Élie qu'Élie qui obéit à Dieu. Et puis finalement, les deux volontés vont finir peu à peu par s'accorder pour que Élie devienne, on pourrait dire, le porte-parole transparent de Dieu sur la terre.
Si on devait parler toujours de ce prophète, on ne le perd pas de vue hein, aujourd'hui et toute la semaine dans cette série des clés pour vivre. Quel serait le charisme de ce prophète de l'Ancien Testament?
Mais je crois que son charisme par excellence, c'est d'être père. Et d'ailleurs, là aussi, on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'acquis dès le début parce qu'il est inscrit dans aucune filiation. Et ça aussi, c'est étrange. En fait, quand on lit ces premiers versets qui présentent Élie, on voit bien qu'il y a beaucoup d'étrangetés et des choses qui ne sont pas normales. Et une de ces autres étrangetés, c'est qu'Élie n'est pas inscrit dans une filiation. Ouais. On ne dit pas Élie, fils de machin, ce qui normalement est le cas. Et là aussi, ça pose un problème, surtout qu'il intervient juste après que Yael de Bethel ait mis à mort ses enfants. son aîné et son cadet pour reconstruire la ville de Jéricho. Donc, dès le début, il y avait une grosse question au niveau de la paternité qui se joue, on pourrait dire, dans la vie d'Élie. Et justement, cette question va souvent réapparaître, en particulier quand il sera dans le désert. Il dira « Je n'ai pas fait mieux que mes pères
ouais. »,
comme si Élie était en concurrence avec ses pères. Et cette question reviendra tout à la fin quand Élisée lui demandera son double d'esprit, qui est une demande qui est celle du fils aîné. On pourra revenir
plus
en détail.
Oui, oui.
Et justement, demande qui va inscrire Élie dans une paternité à l'égard d'Élisée. Donc Élie comme père, c'est une question qui finalement traverse toute sa vie et qui n'est résolue qu'à la toute fin quand il est emporté au ciel.
Ouais, vous parlez de cette paternité de ce prophète Élie. Et puis on se retrouve de toute manière, frère Baptiste, dès demain pour la suite et aller plus loin avec l'étrangeté peut-être. Vous parlez d'étrangeté de ce prophète Élie, cette paternité du prophète avec le Mont Carmel et l'ordre du Carmel.
Bien sûr.
Donc on vous donne rendez-vous demain, ici même, à la même heure. Et merci.